3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. L'érotomanie est une forme de psychose où une personne devient complètement obsédée par un artiste, une idole ou une personne qu'elle admire avec passion et qu'elle lui écrit sans cesse, qu'elle l'attend après tous ses spectacles, qu'elle collectionne tous les articles de magazines sur lui et qu'elle finit par prendre ses rêves pour des réalités tout en ignorant les problématiques qu'elle vit puisqu'elle poursuit ses activités sociales et professionnelles comme à l'habitude. Quand elle parle de la vedette qu'elle chérit, sa réalité est interprétée de manière à justifier sa relation spéciale qui l'unit à l'artiste. Dans les cas extrêmes, cette personne en viendra à se croire l'élu du cœur de son idole. S'il sourit à l'assistance, elle pensera qu'il lui sourit. S'il entonne une chanson d'amour, elle se dira que cette chanson fut chantée pour elle. Il est très difficile de faire douter une personne érotomane, car cette dernière est convaincue de son histoire et sa réalité imaginaire devient alors sa seule réalité. Elle perd ainsi contact avec une partie du réel, les causes et les facteurs de risque de ce trouble délirant étant très peu connus. Parmi les hypothèses pour expliquer ce trouble, les relations antérieures instables, une faible estime de soi et d'autres troubles associés à la personnalité furent envisagés. Il existe quatre caractéristiques à l'érotomanie. L'obsession malsaine pour une vedette ou une personne connue et souvent en position de prestige, dont la place qu'il prend devient alors démesurée. Les sentiments amoureux, où notre amateur vit une grande passion en dirigeant ses sentiments intenses vers une personne inaccessible et croit que ses sentiments sont alors partagés. Un espoir sans limite dans lequel la personne est persuadée que l'autre est épris d'elle, qu'il pourrait tout quitter seulement pour elle. Et finalement, une idéalisation de la vedette où, à ses yeux, la vedette est un être idéal et fabriquera alors de toutes pièces dans son esprit ses qualités, ses traits de personnalité et l'affection que l'autre lui porte. La personne érotomane est insistante et ne comprend pas les refus. Elle commettra alors des intrusions dans la vie privée de la vedette et celle-ci pourrait aller très loin. Et ce sera là le sujet qui sera à la base de cette émission de Programme Double dans lequel je parlerai des films de King of Comedy et de Joker, deux longs-métrages qui mettront en vedette l'excellent acteur Robert De Niro qui jouera ici les deux côtés de cette médaille dangereuse, soit celle d'un être obsédé et l'autre d'une vedette subissant les foudres de l'obsession d'un être dangereux. Donc, préparez votre rencontre avec votre artiste favori et mettez votre tuxedo de couleur violet tout en teignant vos cheveux de couleur vert, car je vous propose ici un voyage dans la folie psychologique de deux personnages qui nous démontrent à quel point, des fois, la fiction n'est pas si loin de la réalité.
Non, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Well, beauty of the country scene. An old mill still turns. The young folk dance round the maypole, and the ancient ceremony of feasting on the village green is a tradition of centuries. Today, the barbecue, the new idea in party giving, brings this custom up to date. With cigarettes too, there's the new way, Rothmans King Size. Rothmans invented King Size for cool, smooth smoking. Extra length, finer filter, and the best tobacco money can buy give you the real King Size flavor that satisfies. Rothmans, the King Size name for cigarettes.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show. And please come back and visit us again. And now, it's showtime.
And I'm thinking as I'm sitting here now, well, maybe this is my big break. This is my big chance, you know what I mean?
You don't just walk onto a network show without experience. Now, I know it's an old hackneyed expression, but it happens to be the truth. You've got to start at the bottom.
I know. That's where I am, at the bottom.
That's a perfect place to start.
So will you please give your warmest greetings to the newest king of comedy, Rupert Pupkin.
His name is Rupert Pupkin. He lives in a world of make-believe.
Oh, Jerry, I love this guy. Always coming up with these great lines. I love him. I love him.
Nobody can remember his name.
Mr. Pupkin.
Mr. Pupnik.
Mr. Puffer.
Rupert.
Pupkin, P-U-P-K-I-N.
But by 11:30 tonight, the whole world will know that Rupert Pupkin is the new king of comedy. Robert De Niro. Jerry Lewis. In a Martin Scorsese picture. The King of Comedy.
The King of Comedy, ou La valse des pantins, est une comédie de mœurs qui a été distribuée par les studios 20th Century Fox le 18 février 1983. Ce film américain d'une durée de 109 minutes aura coûté plus de 19 millions à produire, mais n'amassera seulement que 2,5 millions de dollars au box-office nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Martin Scorsese, ce réalisateur américain qui nous a donné des films tels que Goodfellas, New York, New York et Taxi Driver. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur israélien Arnon Milkan, ce dernier ayant travaillé sur des productions telles que Mr. and Mrs. Smith, Brazil, Birdman et la version de 2003 de Daredevil. Et au niveau de la scénarisation, eh bien, on y retrouve le scénariste américain Paul D. Zimmerman, ce scénariste qui a travaillé sur des films tels que Consuming Passion et Viaggio con Anita. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve Robert De Niro, Jerry Lewis, Sandra Bernhardt, Diane Abbott et Shelley Hawk. Un homme convaincu de son talent de monologuiste comique, même s'il n'a jamais affronté le public, voue un culte maladif à un animateur d'un talk show à la télévision et espère alors faire ses débuts à son émission. Après plusieurs refus, l'homme décide d'enlever l'artiste afin d'exiger comme rançon quelques minutes de diffusion à son émission. Après avoir terminé le tournage du drame sportif Raging Bull en 1979, le réalisateur Martin Scorsese et l'acteur Robert De Niro désiraient de nouveau travailler ensemble, ces derniers ayant précédemment uni leurs efforts sur Taxi Driver, New York, New York et Mean Street. À cette époque, Scorsese souhaitait adapter le roman The Last Temptation of Christ de Nikos Kazantzakis avec De Niro en Jésus-Christ. Mais De Niro ne sera pas intéressé et préférera alors que leur prochaine collaboration soit une comédie. C'est alors qu'il s'intéressera au journaliste Paul D. Zimmerman, qui sera critique pour le magazine Newsweek de 1967 jusqu'en 1975 et qui avait écrit des scénarios pour la série pour enfants Sesame Street. Alors âgé dans la quarantaine, ce sera au début des années 70 que Zimmerman commencera à réfléchir à la nature de la célébrité et du fandom. L'auteur sera alors directement inspiré par un article du magazine Esquire dans lequel un homme tenait un journal à l'intérieur duquel il évaluait chaque émission de Johnny Carson et qui deviendra alors totalement obsédé par l'hôte du talk show. Zimmerman commencera alors à penser aux liens entre les chasseurs d'autographes et les assassins, les deux traquant les célébrités, l'un avec un stylo et l'autre avec une arme à feu. Avec cette nouvelle corrélation dans son esprit, Zimmerman commencera à travailler avec le célèbre réalisateur Milos Forman. Les deux hommes développèrent chacun leur propre brouillon de l'histoire. Mais après quelques années de travail, Forman abandonnera le projet, préférant travailler sur sa prochaine réalisation, l'excellent One Flew Over the Cuckoo's Nest, en 1975, laissant Zimmerman seul sur ce projet qui attirera alors l'attention de De Niro. L'acteur lira le scénario et l'apportera à Scorsese en 1976. Malheureusement, Scorsese, qui connaissait Zimmerman en tant que journaliste, aimait le scénario, mais décidera de se concentrer sur New York, New York à la place. De Niro en profitera alors pour acheter les droits cinématographiques du dit scénario et proposera alors ce dernier au réalisateur Michael Cimino, mais celui-ci était beaucoup trop occupé par la production de son tout dernier film, Heaven's Gates, dont la production s'éternisait. Puis, ce sera le réalisateur Bob Fosse qui sera brièvement envisagé au poste de réalisateur, mais Fosse abandonnera également le projet en faveur de la réalisation de son film Star 80. C'est alors que De Niro se tournera de nouveau en direction de Scorsese, qui venait alors de terminer de travailler sur trois films rapprochés et qui s'était retrouvé hospitalisé pour épuisement et pneumonie. Le réalisateur se demanda alors s'il pouvait faire face au tournage d'un autre film, en particulier avec une grève imminente de la Writers Guild of America. Ce sera finalement le producteur Arnon Milchan qui convaincra en août 1980 Scorsese d'accepter le projet, Milchan étant persuadé que le réalisateur serait capable de réaliser le projet loin des interférences de la grève hollywoodienne en filmant entièrement sur place à New York et en livrant le long métrage dans les temps, et ce en faisant affaire avec une petite société cinématographique. Deux mois plus tard, la pré-production débutera alors que Scorsese n'avait pas encore tout à fait récupéré de sa pneumonie. Après avoir reçu une forte appréciation critique sur le style brut qu'il utilisa pour le tournage du film Raging Bull, le metteur en scène américain estima que The King of Comedy aurait besoin d'un style cinématographique beaucoup plus rude, ce qui signifierait des plans de caméra plus statiques et beaucoup moins spectaculaires. Du côté de la distribution, Scorsese voulait l'animateur de télévision Johnny Carson dans le rôle principal, mais ce dernier refusera car cela lui rappellera cette mauvaise expérience avec un fan, rencontre qui était d'ailleurs à l'origine de ce projet, rappelons-le. Après avoir envisagé Dean Martin, Orson Welles, Dick Cavett et Frank Sinatra, ce sera finalement vers Jerry Lewis que se tournera le metteur en scène, Lewis acceptant le rôle, cet acteur humoriste obtenant ici d'ailleurs son tout premier rôle dramatique en carrière. Mais De Niro ne sera pas d'accord avec ce choix et écrira à Scorsese une lettre avant le tournage exprimant sa réticence au casting de Jerry Lewis dans le rôle de Langford. Le réalisateur fera alors valoir à De Niro que la propre expérience de Lewis en tant que comédien de la vieille école de comique l'aiderait à comprendre et à dépeindre l'angoisse du personnage de Langford. De Niro rencontrera Lewis 5 fois avant le début du tournage, le questionnant sans cesse sur la vie dans la bulle des célébrités. Une fois les contrats signés, De Niro téléphonera à Lewis pour lui dire qu'en dehors du plateau de tournage, il n'aurait plus aucun contact avec lui afin de rendre plus crédible son rôle d'intrus dans le film. The King of Comedy marquera la toute première apparition sur le grand écran de l'actrice Mary Elizabeth Mastrantonio et le retour au cinéma de l'actrice Shelley Hawke après 4 ans d'absence. De plus, ce sera la véritable mère de Martin Scorsese qui interprétera le rôle de la mère du personnage principal, Rupert Pupkin. Alors que De Niro fera la visite des différents clubs de comédie de New York afin d'y rencontrer des chasseurs d'autographes, tout en regardant bien sûr plusieurs heures de séquences du Tonight Show pour se préparer pour son rôle, Scorsese et Lewis se rencontrèrent tous les jours durant plus de 8 semaines. C'est durant d'ailleurs cette période que le scénario subira d'énormes changements, ce dernier s'inspirant directement de la longue carrière folle de l'acteur comique et de ses expériences personnelles en tant que vedette, notamment cette scène où il est arrêté par une dame âgée près d'une cabine téléphonique pour un autographe, puis réprimandé pour ne pas avoir parlé à son neveu qui était à l'autre bout du fil à ce moment-là. Cette scène fut réalisée par l'acteur Jerry Lewis lui-même durant le tournage. C'est également à ce moment que Lewis suggérera fortement à Scorsese de changer le prénom de son personnage dans le scénario. En effet, à l'origine, son personnage s'appelait Robert Langford, mais comme Scorsese avait pris la décision de tourner directement dans les rues de New York, Jerry Lewis expliquera alors au réalisateur que lorsqu'il se promène dans les rues, les gens lui parlent comme s'il était un ami et tout le monde ne cesse de l'appeler par son prénom en le saluant. C'est exactement ce qui arrivera durant le tournage du film, dans lequel toutes les séquences tournées avec Lewis dans la rue étaient totalement improvisées et nullement préparées avec les gens qui croiseront l'acteur populaire en l'appelant par son surnom. Malgré la grève imminente de la Directors Guild of America, le tournage principal débutera le 1er juin 1981 à New York, soit 1 mois exactement avant le début de la grève. À cause de ses problèmes de santé, Scorsese tournera le film sur une période de 20 semaines, activant ses caméras entre 16h et 19h, et ce, à tous les jours. D'ailleurs, le tournage ne sera pas facile pour Scorsese et Lewis. Le réalisateur tournera près d'1 million de pieds de film, exaspérant Lewis après plusieurs prises, Scorsese cherchant continuellement à obtenir le meilleur réalisme dans ses scènes. De plus, pour la scène où Pupkin s'introduit dans la maison de Jerry Langford, De Niro proféra des remarques antisémites pour mettre en colère Jerry Lewis, qui, peu habitué à cette méthode d'interprétation, sera réellement furieux à l'écran, augmentant alors cet aspect de réalisme tant recherché par Scorsese. La production a apporté un certain nombre de difficultés de logistique. Tourner dans les rues de New York s'est souvent avéré un véritable casse-tête. Cependant, le metteur en scène a découvert que le plus gros problème était que le sujet délicat de l'histoire, que touche la division d'une personnalité du monde artistique entre sa vie privée et sa vie publique, était si troublante pour lui que ce dernier évitera de voir son film une fois terminé. Pour les segments du talk show, ceux-ci seront filmés sur bande vidéo comme un véritable talk show et seront par la suite transférés sur bobine de film 35 mm. L'actrice Liza Minnelli filmera une scène où elle interprétera son propre rôle dans le talk show de Jerry Langford et chantera « New York, New York ». Malheureusement, la scène sera coupée au montage, Minnelli n'apparaissant dans la version finale du film que sous la forme d'une découpe en carton grandeur nature de sa personne, qui sera alors un invité du talk show imaginaire se trouvant dans le sous-sol de Rupert Pupkin. Son nom apparaîtra tout de même dans le générique de fin. Jerry Lewis avait demandé que ses costumes soient confectionnés par ses costumiers habituels, Cy Devore et Leon Decker, mais aucun des deux tailleurs ne sera crédité à l'écran. De plus, afin d'ajouter un sentiment de réalisme et de tension aux scènes, Scorsese encouragera Sandra Bernhard à improviser sur le plateau de tournage, une des raisons pour laquelle elle avait été embauchée pour le rôle de Masha. La scène dans laquelle Masha attache Jerry et tente de le séduire sera d'ailleurs presque entièrement improvisée. C'est d'ailleurs durant le tournage de cette séquence qu'une certaine tension s'installera alors entre la jeune actrice et l'acteur d'expérience Kelly Lewis. Tout comme dans la séquence avec De Niro, où ce dernier utilisera une méthode de travail qui déplut à Lewis, la scène dans laquelle Masha couvre Jerry de rubans adhésifs jusqu'au cou et tente de le séduire alors qu'il est coincé dans une chaise ne se fera pas sans difficulté. Cette tension a culminé au moment où Jerry a amené Masha à le détacher pour la mettre KO. Lewis voulait à l'origine que Bernhard tombe sur une table en verre recouverte de bougies, alors que Bernhard, elle, était totalement réticente. Jerry a insisté sur son argument, mais Scorsese est finalement intervenu et a opté pour la version plus simple de l'attaque, comme on le voit dans le film. En septembre 1982, la date de sortie du film sera repoussée à une date non précisée en 1983, les représentants de la 20th Century Fox déclarant alors que le long-métrage n'était pas encore prêt et que le report de la sortie du film permettrait au studio de mieux commercialiser ce dernier. The King of Comedy sortira finalement le 18 février 1983 avec des critiques mitigées. Il s'agira d'un des plus gros échecs commerciaux de la carrière de Martin Scorsese. The King of Comedy, qui ouvrira le Festival de Cannes en 1983, raflera le prix du meilleur scénario au BAFTA Awards de 1984, du meilleur film au London Film Critics Circle Awards de 1984 et finalement de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sandra Bernhard au National Society of Film Critics Award de 1984. Le scénariste Paul D. Zimmerman décédera d'un cancer du côlon à Princeton, au New Jersey, le 2 mars 1993. Du côté des points forts, eh bien, The King of Comedy est une comédie satirique qui se rapproche beaucoup plus du drame psychologique que de la comédie elle-même. Et le réalisateur nous présente avec énormément de justesse les difficultés reliées au monde du végétariat. D'ailleurs, le scénario se permet de développer une vision critique du rêve du succès américain et ridiculise complètement d'une manière loufoque et dramatique les dangers de cet univers qu'est la télévision et surtout celui des amateurs et des chasseurs de vedettes. La distribution ici est tout à fait exemplaire, notamment les prestations de De Niro et surtout de Jerry Lewis. Scorsese nous donne ici un style brusque et direct qui donne un sens de réalisme qui est quelque peu dérangeant. De plus, le réalisateur réussit à instaurer un bon rythme à son film malgré le fait qu'il prend son temps pour mettre en place son histoire. Bien que les dessous du film soient extrêmement sérieux, l'humour ici est subtil, satirique et surtout très efficace. Mais du côté des points faibles, eh bien, les amateurs des films de Jerry Lewis seront quelque peu déçus de ce long métrage, car l'acteur ne fait pas ses grimaces habituelles, mais joue son rôle de façon très terre-à-terre, quelque chose dont nous ne sommes pas habitués de l'acteur, ce dernier donnant ici fort probablement sa meilleure prestation en carrière. De plus, le film est plus un drame qu'une comédie et c'est à ce genre de spectacle que l'auditoire doit s'attendre, le titre donnant une mauvaise direction à la perception du style de film que le spectateur est sur le point d'écouter. Les passages entre la réalité et ce qui se passe dans la tête du personnage de Rupert peuvent porter quelque peu à confusion par moment entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Par moments, même le spectateur pourrait se retrouver mal à l'aise dans certaines séquences, ce dernier pouvant par moments se reconnaître dans certains gestes de ses fans excessifs. Je dirais au final que The King of Comedy est un film avant-gardiste, en avance sur son temps, qui aurait probablement obtenu une meilleure popularité s'il avait été présenté en salle aujourd'hui plutôt que dans les années 80. Au niveau de la trame instrumentale, c'est le compositeur Robbie Robertson, ce compositeur canadien qui nous avait donné les trames sonores des films The Color of Money, Raging Bull, Phenomenon et Gang of New York, qui s'occupe de faire la trame sonore. Une trame sonore qui a été mis sur le marché sous l'étiquette Warner Bros. Record en 1983. Vous pouvez retrouver cette dernière en CD, en cassette et en vinyle. Je vous fais donc écouter ici un extrait de la trame sonore du film The King of Comedy.
Intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank's sizzling hot. There's delicious coffee, freshly brewed, and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
It's ice cream time!
That's right. Can I sell you some Lion's Mane ice cream? Cups, chalk ices, lollies? I shouldn't be doing this job, really. I haven't got the shape for it. But at least I get a free one. Now, what do you fancy? Stay where you are. I'll send the tray to you. Come on, up, up. It'll be easier this way. Go on, off you go. Take care of everybody. That's it. Enjoy a bit of Lion's Mane magic now. Go on, spoil yourself.
Ach, hello there. Give the demonstration of my new invention, the Goodies Machine. Special for patrons of this drive-in, the machine turns out delumptious hot doggies one after the other. Und thirst-quenching sodas also. Gives popcorn of the most tasty kind, plain and buttered. Candy too, crunchy and dandy. Steaming hot coffee and ice cream too. These goodies are at our snack bar just waiting for you.
Men, there's a drive-in movie full of juicy people. Wow!
It's a trap! Help! It's Pick! We've had it, men.
A pleasant aroma for you, but not for mosquitoes. Pick is easy to use. Light it and forget it. Pick's aroma keeps mosquitoes, gnats, and sandflies away. Pick is the best protection for barbecues, fishing and camping trips, or just relaxing in the yard.
So if you don't want our company ever anywhere, just like Pick and see what I mean? Bye!
Pick is on sale at the refreshment stand now. And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un?
Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde.
Fait des idées ou c'est de plus en plus la folie.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Quoi?
If you smile. To your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile.
Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré!
Gotham est à la dérive. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid? Quelqu'un qui se cache derrière un masque.
Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie.
Thank you.
Joker est un drame social qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 4 octobre 2019. Ce film américain d'une durée de 122 minutes a coûté plus de 70 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 1,1 milliard de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Todd Phillips, ce réalisateur américain qui nous avait donné la trilogie des Hangover, ainsi que la version de 2004 Starsky et Hutch. Au niveau du poste de producteur, eh bien, Todd Phillips est également présent, lui qui a produit les films School for Scoundrels et Old School. Et il est à côté du producteur Bradley Cooper, ce producteur américain qui a travaillé sur les films American Sniper et la version de 2018 A Star is Born, ainsi que Emma Tillinger-Koskov, cette productrice américaine qui a travaillé sur les films Shutter Island et The Irishman. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est également Todd Phillips, ce scénariste américain qui a travaillé sur les scénarios de Road Trip, Due Date et War Dogs, qui est assisté ici par le scénariste américain Scott Silver, ce dernier ayant travaillé sur les films The Mod Squad, 8 Miles, Jones et The Finest Hour. À la distribution, on y retrouve Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Hannah Gross, Brett Cullen, Carrie Louise Putrello, Douglas Hodge et Dante Pereira Olson. Au début des années 1980, à Gotham City, un modeste clown aux ambitions d'humoriste souffre d'une rare condition mentale qui provoque chez lui des rires incontrôlables et douloureux. Vivant avec sa mère invalide, qui lui a transmis sa schizophrénie, il rêve de devenir l'invité adulé d'un talk-show comique animé par son idole et sombre alors dans une folie meurtrière après avoir subi une série d'humiliations. L'idée du film est venue au réalisateur-scénariste Todd Phillips lors de la première de son tout dernier film de 2016, War Dogs, alors que le réalisateur faisait les 100 pas à l'extérieur du cinéma où était projeté son long-métrage. En effet, celui-ci se rendait compte que sa dernière création ne semblait pas obtenir le même niveau de popularité que ses précédentes œuvres, forçant le réalisateur à remettre en question la direction de sa carrière et se demandant alors le type de film que les gens voulaient véritablement voir sur le grand écran. De plus, Phillips trouvait qu'il devenait de plus en plus difficile pour lui de faire de la simple comédie. Après la sortie réussie de Wonder Woman en 2017 et l'échec de la Justice League durant cette même année, DC Films décidera de retravailler sa franchise cinématographique basée sur l'univers coloré de sa compagnie mère, DC Comics. C'est donc après cette première que Phillips présentera l'idée de Joker au président de la Warner, Kevin Tucciara, et aux dirigeants de DC, John Berg et Jeff Jones. À cette époque, le réalisateur, dans la fin de la quarantaine, était surtout reconnu pour ses films comiques tels Road Trip en 2000, Old School en 2003 et la trilogie des Hangover de 2009 jusqu'en 2013. Le projet sera tout de même accepté par Warner Bros. Et le scénariste Scott Silver sera alors embauché pour aider Phillips à l'écriture. Entre-temps, l'acteur Joaquin Phoenix avait exprimé à son agent entre 2014 et 2015, son intérêt pour jouer dans un film de type étude de personnages et ce, à petit budget. Phoenix avait précédemment refusé des rôles dans l'univers cinématographique de Marvel Comics parce qu'il était obligé de reprendre un rôle similaire dans plusieurs autres films. Au départ, Phoenix exclura le projet du Joker pour son idée d'étude de personnage et cherchera alors autre chose, abandonna l'idée complètement malgré que l'agent de ce dernier lui suggéra fortement d'organiser une réunion exploratoire avec Warner Brothers. Phillips et Silver écriront Joker tout au long de l'année 2017. Il faudra un certain temps pour obtenir l'approbation du scénario de la part de Warner Bros., en partie à cause des préoccupations concernant le contenu de celui-ci. Un million d'obstacles surviendront au cours du processus d'écriture en raison de la visibilité du personnage et du fait que les deux écrivains travaillaient sur une histoire appuyant plus sur les conséquences du traumatisme subi par des enfants et la maladie mentale que sur l'aspect commercial du personnage mythique. Le scénario s'inspirera également de certaines productions du metteur en scène Martin Scorsese, telles que Taxi Driver en 1976, Raging Bull en 1980, mais surtout de King of Comedy en 1983. Ce sera d'ailleurs pour cette raison que Scorsese sera alors approché par la Warner pour travailler à titre de producteur sur la dite production, poste qu'il acceptera à l'époque. Une autre des raisons pour laquelle on embauchera Scorsese du côté de la Warner Bros., c'était pour utiliser ce dernier afin qu'il embauche l'acteur Leonardo DiCaprio pour le rôle principal. Cependant, le film obtiendra le feu vert au milieu de 2018 et Scorsese quittera alors le projet parce que le producteur-réalisateur s'intéressait beaucoup plus à la vie du personnage d'Arthur qu'à celle du Joker et également par le fait qu'il préférait à ce moment travailler sur un autre projet, soit celui de The Irishman. Suite aux performances critiques et financières décevantes de la Justice League en 2017, Walter Hamada remplacera alors John Berg à la tête de la production cinématographique de DC Films. Hamada fera alors le tri des différentes productions reliées à DC Films et se montrera très réticent au projet du Joker et décidera d'allouer un petit budget à la production afin de dissuader Todd Phillips. Mais, suite à l'embauche des acteurs Robert De Niro et Joaquin Phoenix, qui acceptera alors le rôle-titre après plus de 4 mois de persuasion de la part du réalisateur, Warner Brothers officialisera alors une date de sortie pour le long-métrage, soit celle du 4 octobre 2019, laissant moins de 15 mois pour la réalisation du projet. C'est alors qu'arrivera Emma Tillinger-Koskoff, une associée de longue date de Scorsese, qui se joindra à la production suite au départ de ce dernier. De plus, c'est à ce moment-là également que l'acteur Jared Leto, qui avait interprété le personnage du Joker dans le film Suicide Squad en 2016, se montrera très mécontent de l'existence de ce projet distinct, surtout par le fait que la compagnie Warner Bros. Lui avait promis un film indépendant sur le personnage du Joker. Cependant, la compagnie Warner Brothers va confirmer que cette nouvelle version cinématographique du personnage n'aurait aucun effet sur le Joker de Leto et que ce nouveau long-métrage serait le premier d'une nouvelle série de films DC sans avoir un lien direct avec ce qu'on appelait à l'époque le DCU. Au niveau de la distribution, Frances McDormand déclinera l'offre d'interpréter la mère du personnage du Joker et ce sera finalement l'actrice Frances Conroy, connue principalement à la télévision pour ses rôles dans des téléséries telles que Six Feet Under et American Horror Story, qui sera finalement choisie. Pour le père de Bruce Wayne, ce sera initialement l'acteur Alec Baldwin qui fut choisi, mais ce dernier abandonnera 2 jours après la signature de son contrat en raison de conflits d'horaires et par le fait que la description du personnage sur papier ressemblait beaucoup trop à un Donald Trump des années 1980. Ce sera finalement l'acteur Brett Cullen qui obtiendra le rôle. En avril 2018, une ébauche du scénario du film sera diffusée sur Internet. Phillips a déclaré qu'il s'agissait d'une ancienne version et refusera d'intenter une action en justice contre la diffusion illégale de ce scénario, déclarant qu'il aimait voir circuler cette ancienne version. La photographie principale débutera en septembre 2018 à New York, sous le titre de travail « Romero », titre donné en l'honneur de l'acteur ayant interprété le personnage du Joker dans la série télé de Batman des années 60, l'acteur s'appelant César Romero. Avant de s'engager dans le film, Joaquin Phoenix, qui demanda à sa mère d'examiner le scénario avant de décider de signer pour la production, va montrer à son réalisateur sa tentative de rire étrange et sans joie du personnage. Puis, Phoenix regardera des vidéos de personnes souffrant du même trouble pathologique du rire dont souffre son personnage afin de bien faire les choses. À la fin, il a cloué le rire du Joker, le joint avec plus de tristesse et de douleur que de bonheur, et ce en étudiant les mouvements de stars emblématiques du cinéma muet, comme Buster Keaton et Ray Bolger. L'action du film se situant en 1981, la garde-robe d'Arthur a été conçue par le costumier Mark Bridges, qui a travaillé avec Phoenix sur The Master and Inherent Vice. Bridges et le concepteur de production Mark Fridberg ont trouvé leur palette de couleurs idéale dans un livre de muscle car de l'époque qui a inspiré la teinte marron du costume signature du Joker qu'Arthur porte dans diverses scènes tout au long du film et qui devient de plus en plus lumineuse à mesure qu'Arthur évolue vers le personnage mythique. Phoenix perdra plus de 52 livres pour son rôle, ce qui apportera quand même quelques problèmes au tournage, puisqu'il était presque impossible de retourner des scènes suite à la fin de la production. En effet, habituellement, lorsqu'un film entre dans la phase de montage, les producteurs vont déterminer quel plan fonctionne et quel plan ne fonctionne pas, et par la suite, eh bien, on peut reprendre les plans qui ne fonctionnent pas. Mais on ne pourra pas le faire avec Joker pour le bien-être de la santé de Phoenix qui avait alors repris son poids normal. Phoenix mettait souvent brusquement fin au tournage d'une scène s'il n'était pas satisfait de sa performance. De plus, Todd Phillips réécrivait continuellement le scénario tout au long de la production et apprenait à ses acteurs leurs nouvelles lignes pendant que ceux-ci se faisaient maquiller. Ces scènes seront alors tournées le jour même. Bien que Robert De Niro soit l'acteur américain préféré de Joaquin Phoenix, les deux ont à peine parlé sur le plateau, cela étant dû en partie à leur méthode d'acting similaire. De plus, il y avait une certaine tension entre les deux comédiens, car De Niro insistait pour que la distribution fasse une lecture avant chaque scène, alors que Phoenix ne voulait pas le faire. Un lien amusant surviendra entre l'histoire de The King of Comedy et Joker. En effet, alors que le personnage de De Niro du film de 1983 est un comédien en herbe sans talent qui s'en prend à son acteur favori, le personnage qu'il interprète dans le film de 2019 devient victime d'un amateur dérangé. Travailler dans les rues de New York a apporté sa propre trame de difficultés, en particulier le jour où l'équipe devait tourner cette scène de danse sur l'escalier du Bronx. Phoenix s'était préparé pour la séquence en travaillant avec le chorégraphe Michael Arnold, mais malgré les efforts pour garder la production silencieuse, la nouvelle qu'un film tournait dans le Bronx était parvenue aux enfants du quartier et aux médias qui s'empresseront alors de se rendre sur place, causant de multiples problèmes de logistique pour l'équipe de production. Dans un effort pour réduire le budget de la production, le metteur en scène n'utilisera pratiquement aucun effet CGI dans le film, la plupart des effets spéciaux ayant été créés avec des méthodes pratiques. Lors du tournage, les dirigeants de la Warner Bros. Ont commencé à s'inquiéter un peu de la violence graphique dans les scènes visionnées quotidiennement par ces derniers. Ayant accepté de faire Joker avec une note « restricted » lorsqu'il présentera initialement sa vision, le studio a envisagé d'apposer son droit de veto à la production, forçant presque le réalisateur à assainir son film à mi-chemin de la production. Phillips a dû convaincre les dirigeants de le laisser continuer à faire son long métrage selon son concept d'origine. Il est très rare qu'une musique de film soit écrite avant la fin du tournage d'un film. Habituellement, la partition est écrite lorsque le film a été en grande partie monté ou assemblé afin que le compositeur puisse créer les sons nécessaires pour compléter les images. Todd Phillips décidera alors d'imiter une technique qu'utilisait le réalisateur italien Sergio Leone qui demandait alors à ses compositeurs d'écrire la partition musicale avant le tournage, puis de jouer cette musique sur le plateau pour créer la bonne ambiance et ainsi donner aux acteurs une idée de cette même ambiance. C'est cette même technique qu'il utilisera sur la production de Joker et il forcera la compositrice et violoniste islandaise Hildur Guðnadóttir, qui fut embauchée sur la production en 2018, a commencé à écrire la musique suite à leur rencontre avec le réalisateur et de faire cela avant même que l'on ait commencé à tourner le film. Le réalisateur lui apportera alors le scénario en personne et prendra la peine de lire celui-ci en sa compagnie. Hildur travaillera sur la composition musicale de Joker en même temps que son travail musical sur la mini-série télévisuelle Tchernobyl. Pour signaler au public qu'il ne s'agissait pas d'un film pour enfants, Warner Brothers choisira une date de sortie à l'automne en dehors de la saison des vacances estivales et a choisi de ne pas lier de produits de consommation au film, présentant plutôt Joker comme un drame sophistiqué et primé. Du côté de la toute première bande-annonce du film, cette dernière sera vue par plus de 8 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Joker fut présenté en première au 76e Festival international du film de Venise le 31 août 2019, où il reçut une ovation debout pendant plus de 8 minutes et remportera finalement le prix du Lion d'or. Le long-métrage sera également projeté au Festival international du film de Toronto en septembre 2019 et en octobre 2019, Warner Brothers distribua Joker dans plus de 4374 cinémas en Amérique du Nord. Dès sa sortie, Joker sera mis sur la sellette à cause de sa violence graphique, forçant même l'armée américaine à distribuer un service d'avertissement par email d'une violence potentielle dans les cinémas projetant le film. Même le réalisateur Todd Phillips exprimera sa surprise face aux critiques du ton sombre du long métrage, quittant même en plein milieu d'une entrevue avec un journaliste du journal The Telegraph lorsqu'on lui demandera si le film pouvait inspirer les tireurs en masse. Suite à cet événement, les journalistes seront désinvités de la première au TCL Chinese Theatre. Seuls les photographes furent autorisés à interagir avec le cinéaste. Le film ne sera pas projeté au cinéma Aurora dans le Colorado, où une fusillade avait eu lieu en 2012 lors d'une projection de The Dark Knight Rises. Trois familles de victimes, ainsi que la mère d'un témoin, signèrent une lettre à la Warner Bros. Pour en faire la demande. De plus, le Landmark Theatre interdira aux cinéphiles de porter des costumes du Joker pendant sa diffusion, tandis que les services de police de Los Angeles et de New York augmenteront la surveillance dans les cinémas de la région. Joker rapportera plus de 96,2 millions de dollars durant son premier week-end et deviendra le quatrième plus grand début au box-office pour un film classé Restricted, et ce, de tous les temps. Le film amassera plus de 335,5 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 738,5 millions de dollars dans le reste du monde entier. En termes de rapport budget brut, Joker deviendra également le film le plus rentable basé sur une bande dessinée. La performance de Joaquin Phoenix lui vaudra de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur acteur, un BAFTA Award du meilleur acteur dans un rôle principal, un Critics' Choice Movie Award du meilleur acteur, un Golden Globe Award du meilleur acteur, ainsi qu'un Screen Actor Guild Award pour la performance exceptionnelle d'un acteur masculin dans un rôle principal. De plus, le film de Phillips sera récompensé avec un Oscar pour la meilleure trame sonore instrumentale lors de la 92e cérémonie des Oscars, recevant un total de 11 nominations, battant ainsi le record de 8 nominations détenues par The Dark Knight pour le plus grand nombre de nominations reçues par un film basé sur une bande dessinée ou un roman graphique. Au 73e British Academy Film Awards, le film remportera les prix de la meilleure distribution en général et de la meilleure musique originale sur 11 nominations. Le film sera également nominé pour 4 Golden Globe Awards durant la 77e cérémonie, remportant entre autres le prix de la meilleure musique originale, tout comme ce sera également le cas au 25e Critics' Choice Award. À la suite de ces nominations à diverses remises de prix, le film sera projeté de nouveau dans les salles à travers l'Amérique du Nord, et ce, à partir du 17 janvier 2020. Du côté des points forts, eh bien, le point central de Joker est cette interprétation tout à fait exceptionnelle de Joaquin Phoenix, qui réinvente totalement cette figure iconique du milieu du comic book. La réalisation atmosphérique et lente du metteur en scène Todd Phillips donne un style de film d'auteur au long métrage et nous sort totalement du créneau commercial du film de super-héros, quelque chose de très rafraîchissant dans ce type de long métrage. En mélangeant différents styles du réalisateur Martin Scorsese, le metteur en scène ici nous donne une excellente histoire d'origine qui respecte les bases historiques du personnage tout en y amenant une certaine originalité qui permet de faire un lien beaucoup plus logique sur le conflit éternel entre le Joker et le Batman. Le scénario, qui est très axé sur l'aspect psychologique et social, décrit avec perception cette lente descente aux enfers de l'âme solitaire et bafouée de notre vilain qui suscite l'empathie du spectateur. Finalement, la musique sombre de la compositeur Hildur Gunnadottir rajoute sur l'effet de lourdeur du film qui sera alors soulagé par un choix méticuleux de chansons diverses de grande qualité. Mais du côté des points faibles, eh bien, le style choisi ainsi que la lenteur de l'action pourraient ennuyer certains spectateurs. De plus, ceux qui s'attendent à voir un film de super-héros traditionnel et commercial seront fortement déçus. Pour les amateurs du personnage, les fans pourraient être également irrités par le fait que le metteur en scène a choisi ici de montrer le Joker comme un homme tout à fait normal qui est alimenté par une folie qu'il cherche à fuir constamment dans le film avant d'embrasser cette dernière, lui permettant de devenir le personnage iconique que l'on connaît. Contrairement à l'univers du comic book, le personnage n'est nullement doté d'une intelligence avancée et surtout, celui-ci est présenté comme beaucoup plus âgé que le personnage de Bruce Wayne, dont il deviendra avec le temps l'ennemi juré. Du côté de la musique, eh bien, c'est la compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir qui avait travaillé sur les films Sicario, The Oath, The Bleeding House et A Hijacking. La trame sonore sera distribuée sous l'étiquette Water Tower Music en CD ainsi qu'en vinyle le 2 octobre 2019. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du film Joker.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep I'm trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you
if you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness,
smile,
hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
You'll find that life's worthwhile
if you just smile.
Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm cote le film de King of Comedy 3. Moi, j'y vais avec un 1. Je trouve que Scorsese nous démontre le milieu des fans avec une justesse dérangeante. Donc, un film qui mérite une cote parfaite. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence, mais surtout un langage vulgaire. Du côté de Joker, eh bien, Mediafilm cote le film 3. Moi, j'y vais avec une cote 2. Un petit peu trop tôt pour dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je pense qu'avec le temps, c'est un film qui va bien vieillir. Au niveau de la cote, eh bien, le film est coté 13 ans indicatif du côté de la régie du cinéma. Moi, j'y vais avec une cote 14 ans, quand même des scènes assez violentes et qu'un langage quelque peu vulgaire. Du côté de la disponibilité en DVD et en Blu-ray, eh bien, The King of Comedy est disponible en DVD et en Blu-ray disc dans les deux langues, français et anglais, alors que Joker, lui, est disponible dans les deux langues, que ce soit en DVD, en Blu-ray et même en 4K. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.